Dans les lectures aujourd'hui, de ce 29e dimanche du temps ordinaire, dimanche consacré aux missions, nous avons un leitmotiv, les trois lectures. La première, broyé par la souffrance, le serviteur a remis sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Parce qu'il a remis sa vie en sacrifice de réparation. Ça nous interpelle et interloque un peu. Sacrifice de réparation, comme signe d'espérance. Dans l'Évangile, Jésus, qui dit à ses disciples, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donner sa vie en rançon. Voilà que ça se complique. Enfin, plutôt, Jésus enfonce le clou. L'autre jour, j'entendais des juifs me dire, un grand rabbin et un chef du consistoire, écoutez, il faut que chacun porte sa croix. Je dis, c'est vous qui le dites, hein? En tout cas, là, c'est vraiment... Jésus enfonce le clou, hein? Donner sa vie en rançon. Et puis, la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, le grand prêtre, le Fils de Dieu, est appelé non seulement à compatir avec nos faiblesses, mais à offrir sa vie pour le peuple, pour pouvoir offrir la grâce de son secours. Voilà que toutes ces thématiques se confirment. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour nous aujourd'hui, ce que Jésus fait de donner sa vie en rançon pour la multitude, en sacrifice de réparation pour nous? Il faut le voir dans le cadre relationnel. Chez les Juifs, c'est toujours comme ça, c'est dans le cadre d'une relation. Alors Jésus, Fils du Père, Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il fait devant son Père? Il dit, le Verbe s'est fait chair, il s'est fait homme, je suis là devant toi, Père, et par ma manière d'être, je me porte garant que l'humain est capable du meilleur. Voilà, je donnerai ma vie par amour. Je l'ai fait toute ma vie, par mon intention aux autres, mais je veux aller jusqu'au bout et je me porte garant que l'humain est capable du meilleur. J'offrirai ma vie par amour pour eux. Et devant les hommes, mais écoutez, je ferai le premier pas face à mes ennemis, je les aimerai. Face à ceux qui me détruisent, je réparerai la destruction pour les reconstruire eux. Face à ceux qui hésitent à faire les premiers pas de l'amour, je ferai le premier pas de l'amour pour les encourager à avoir du plaisir à aimer. Il y a certaines personnes qui s'habituent à avoir du plaisir à faire du mal, c'est ce qu'on appelle les méchants. Je ferai le premier pas pour leur montrer qu'il y a plus de plaisir à aimer. Il y a plus de plaisir à faire le premier pas. Voilà, par cette manière de me porter garant devant le Père, devant les hommes, de faire les premiers pas, je montrerai un nouveau chemin d'humanité. Et c'est un chemin de réparation. C'est un chemin où je me porte garant. Je paye une caution, d'une certaine manière. Il ne faut pas le voir de manière juridique, comme certains de nos anciens latins qui voyaient les choses toujours comme ça. Non, c'est je me porte garant. À part ma vie, je fais en sorte qu'il s'enclenche une dynamique, un processus en eux aussi. Un processus où on apprend à avoir du plaisir, à répondre au mal par le bien, et à répondre à la destruction par la réparation, à répondre aux soupçons par la capacité de se porter garant pour les autres, et devant le Père, et devant les hommes. Et voilà que naît l'espérance. L'espérance, elle est là. Elle est là par ses gestes, cette posture de Jésus. L'homme, l'humain est capable de bien mieux. Et je fais le premier pas. C'est magnifique. Alors quand on se demande comment on peut devenir artisan d'espérance, ça sera le thème de l'année à venir, à partir de Noël, l'année de l'espérance décrétée par le pape François pour toute l'Église. Comment devenir artisan d'espérance? Oh, je crois que Jésus nous dit beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Se laisser entraîner dans le processus de Jésus, je crois, Julie, c'est ce que tu nous as manifesté aujourd'hui. Tu t'es mise en chemin en suivant Jésus. Tu deviens, toi aussi, artisan d'espérance. On en a vraiment besoin. C'est plus simple qu'on le pense, au-delà de tous nos schémas. Quand on voit devant nous ce magnifique cadre, on se dit, il y a eu un temps où, comme dans l'Évangile, Jacques et Jean cherchaient des places. Ils pensaient trouver leur plaisir dans une carrière. Pierre et Paul se disputaient aussi. Et dans ce processus que Jésus enclenche, il nous montre qu'il n'en sera plus comme cela dans la communauté chrétienne. Les gens qui aiment, qui ont du plaisir à faire sentir leur pouvoir est fini. Ça n'a aucun sens dans la vie chrétienne. Aucun. C'est à contresens. Nous ne sommes qu'appelés au service, en soutien des autres, pas en surplomb pour exercer un pouvoir quelconque. C'est absurde. Absurde. Et là, on les voit, Pierre et Paul sont au même niveau, là. Ils sont au même niveau. Ils avaient déjà appris, vous vous rappelez, quand ils étaient pêcheurs, là, pour devenir pêcheurs d'hommes, pour jeter les filets. Quand on s'occupe de filets et de réseaux à mettre en place, c'est ça l'Église, c'est un réseau relationnel, on se baisse, hein, on se baisse pour remettre les filets, réparer les filets. On se baisse, on ne se lève, on ne s'élève pas, on se baisse. Pierre et Paul, Pierre se rappelle qu'il faut se baisser pour être au service de l'unité de l'Église. Il faut se baisser. Paul, il l'apprend lui aussi. Et en fait, là, devant le Tibre, à Rome, il se rappelle sans doute le lac de Tibériade, là où ils apprenaient déjà à baisser la tête pour réparer les filets, pour que ce soit des filets d'amour, hein, de fraternité, de miséricorde, de charité. Et là, ils voient la croix du Seigneur et ils se disent, le seul qui en fait est devant nous, c'est celui qui a pris la place de la croix. Donc c'est lui que nous suivons, c'est avec lui que nous devenons artisans d'espérance pour le monde. Ben, on ira jusqu'au bout en le suivant, lui qui n'a pas exercé de pouvoir, mais et qui n'a fait que faire les premiers pas pour nous mettre en chemin et nous mettre dans le plaisir de vivre comme lui, en devenant source d'espérance pour le monde.